Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute. Salut Pierre, bienvenue sur Le Futur, c'est maintenant. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez spécial. J'ai eu un no-show, comme on dit, donc t'es l'invité remplaçant. Heureusement que je t'ai croisé ce matin chez Nova Pulse, l'accélérateur de startup. C'est une bonne occasion pour nous deux de faire un peu connaissance parce qu'on s'est croisé pendant un an quasiment et on n'a pas trop eu l'occasion de trop discuter, donc je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Je suis allé voir du coup ton profil LinkedIn et ton expérience, ce que tu as pu faire tout au long de ta carrière, et du coup je suis très curieux, et je pense que les auditeurs aussi, de savoir par où tu es passé, quelques conseils que tu peux nous glisser, et voilà, en savoir un peu plus sur toi. Du coup Pierre, je vais quand même te présenter, je sais que tu es le fondateur de Zest, c'est des gourdes éco-responsables si je ne me trompe pas.
Exactement.
Vous êtes fait certifier il n'y a pas longtemps, B Corp. Donc c'est quelque chose qui est assez cool, qui est assez inspirant, et je crois que tu as bien démarré ton activité aussi. Et il me semble que tu es passé par Rocket Internet.
Exactement.
C'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi aux entrepreneurs qui étaient... Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité Rocket Internet, je ne suis pas un expert là-dessus.
On pourra en parler, mais oui, je suis passé par chez eux. Déjà merci, ravi d'être invité remplaçant, bonjour à tous. Est-ce que tu veux du coup me présenter?
Ouais, carrément, okay. je suis curieux de savoir, au-delà du boulot, au-delà de ce que tu fais au quotidien, savoir ce qui t'anime, voilà,
okay.
Qui est Pierre?
Ça marche, donc je m'appelle Pierre Tucoula, j'ai 36 ans, je suis papa de deux petites filles, une qui a 2 ans et demi et une qui a 3 mois, d'où ma voix. Je suis marié avec une femme qui s'appelle Clara. J'ai commencé Zest en 2018, vraiment commercialement en 2019. Et avant, j'avais plutôt une formation commerciale traditionnelle. Donc, j'ai fait une école de commerce à Paris. Et j'ai commencé... je fais un petit tour chez Canal+ en stratégie, mais
ouais.
le job m'ennuyait énormément. Et le premier job qui m'a vraiment intéressé, c'était chez Rocket Internet.
Philippines, ouais, si je ne me trompe pas, j'ai vu ça.
Exactement, où en fait j'avais été recruté par le bureau français pour aller aux Philippines pour contribuer à monter une copie d'Amazon locale, qui a depuis été revendue à Alibaba.
Mm-hmm.
Et donc mon rôle, c'était au sein des équipes marketing, de créer des équipes, les structurer, les manager, et après trouver des managers locaux qui avaient une meilleure connaissance du marché local que moi, qui était capable de manager ces équipes. Donc j'ai fait ça pour pas mal d'équipes différentes, des équipes liées aux social media, d'autres liées aux graphistes, d'autres liées aux catégories management, avec du management de 2 personnes à 15, donc hyper intéressant, une structure voilà, en grosse croissance, parce que quand je suis arrivé, on était à peu près 10-12, et quand je suis reparti, on était un peu plus de 200, donc on a un temps très limité, grosse injection de cash, et Rocket Internet, juste pour expliquer peut-être
le concept,
ce que c'est ils sont spécialisés dans la copie de modèle, dans les copycat, donc la copie de modèle existant, et prouvé généralement aux États-Unis, et le but, c'est de déployer ça dans des pays où la pénétration d'Internet, enfin, bien souvent où la pénétration d'Internet n'est pas encore top. Donc Philippines, c'était un pays complexe parce que énormément d'îles, pénétration au niveau Internet, quand j'y étais, c'était fini en 2011, ça devait être en 2012, 2011, je ne sais plus, je ne me rappelle plus très bien. C'était
2012, ouais, tu vois,
voilà,
je suis allé voir ton LinkedIn, j'ai triché un
2012,
petit peu.
2012, on n'était pas encore, enfin, il y avait des automatismes qui n'étaient pas encore là, notamment le paiement par carte, enfin, des choses comme ça. Donc, hyper intéressant d'être dans une structure où il y avait des injections de capitaux assez massives et où on était, il fallait aller extrêmement vite. Donc, j'ai fait un passage chez eux. Ensuite, le rythme était trop fort, très franchement. Donc, c'était un rythme un peu qui ressemblait à de la banque d'affaires.
D'accord.
Sans le salaire. et donc, je suis rentré en France. J'ai rejoint une start-up qui était spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc,
okay.
Un éditeur de logiciels où j'ai fait des sales au début. Et ensuite, le responsable marketing est parti, donc j'ai pris des fonctions marketing. À l'époque, la start-up avait été dirigée par des personnes qui avaient à peu près mon âge maintenant.
Ouais. C'est ta première expérience start-up, même si aux Philippines, c'était peut-être un modèle aussi
Ouais, c'est un modèle un peu
un peu
différent.
start-up.
Ouais,
Ouais.
là, c'était start-up un peu plus débrouille,
D'accord.
donc avec des budgets un peu plus limités, même si on avait levé. Et moi, ce qui était intéressant, c'était de voir les fondateurs se débattre un peu avec les problématiques de cash.
D'accord.
Donc des subventions qui n'arrivaient pas, enfin voilà, pas mal de choses différentes, une concurrence qui était un peu rude avec
En
les
mode
acteurs
frugal, comme
américains.
on dit.
Ouais, voilà. Et donc la boîte a fermé. Moi, j'ai décidé à ce moment-là de faire une petite formation au wagon. Donc c'était les débuts du wagon. Il n'y avait que... c'était 8e promo du wagon. Je ne sais pas combien de promos il y a maintenant.
Oh, j'en ai aucune
On est
idée,
à
mais t'as
200,
appris à
300.
coder du coup à ce moment-là, c'est ça?
Donc ouais, des bases pour apprendre à coder. Moi, mon but, c'était pas de devenir dev, pas du tout. C'était de comprendre les basiques pour pouvoir discuter avec des devs. Et après, à l'issue de ça, j'ai fait un tout petit peu de freelance pour des indépendants ou alors des amis qui voulaient lancer des projets en montant des web apps. Et après, j'ai été recruté par Carrefour en e-commerce alimentaire
Ok.
pour faire de l'entrepreneuriat
Ok,
au sein du
super.
groupe Carrefour au siège. Et donc, j'ai lancé des boîtes pour Carrefour.
Et avant toutes ces expériences à l'école, comment ça s'est passé? Tu as fait une école de commerce, tu disais? C'est l'ESCP, c'est
Ouais,
ça?
c'est
À
ça.
Paris, donc toi,
Ouais.
tu es originaire de région parisienne?
Oui,
Ok.
on est des faux Nantais.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis arrivé à Nantes il y a un an,
Ouais.
un peu plus d'un an. Et donc j'avais fait parcours classique, quoi. Lycée à Paris, classe prépa, l'ESCP. L'ESCP, ça m'a... Voilà, c'est pas un mystère pour tout le monde, hein. Les écoles de commerce, c'est pas un endroit où on bosse beaucoup, quoi.
Ou au moins c'est cash. Ouais.
Mais en revanche, il y a d'autres avantages. C'est là où je trouve qu'on apprend à se faire du réseau. C'est un endroit où on peut tester aussi.
Évidemment, ouais.
Donc moi, je m'étais mis dans l'optique à l'ESCP de tester plein de secteurs différents, par exemple pour les stages. Donc j'ai fait de la compta, de la pub, de la strat, enfin différents trucs. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, au moment où je faisais, je me disais, bon, ça me plaît pas. Donc je rayais de ma liste, etc. Et ça m'a beaucoup aidé pour ensuite commencer à voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, etc.
Et à ce moment-là, quand tu étais étudiant, tu avais cette projection de te dire, tiens, pourquoi pas lancer mon propre projet, devenir entrepreneur, ou c'était plutôt, voilà, je multiplie les expériences, j'essaie de trouver la
Jamais,
chaussure à mon pied, non?
jamais, jamais. Après, moi, j'avais bien enfin, je me suis jamais dit, j'aimerais bien lancer ma boîte.
Ok.
Jamais. En étant étudiant. Mais en revanche, j'aimais bien les projets. Donc,
Ouais.
je sais pas, n'importe quoi, monter un festival. Il y avait des tracks un peu sur l'entrepreneuriat. C'était les
D'accord.
débuts de ce type de track dans les écoles de commerce, etc. Et je l'ai trouvé intéressant. En revanche, je me suis jamais dit, je sors
Ouais.
d'école, je monte ma boîte, parce que déjà, je pense que je me sentais pas prêt, j'avais besoin d'expérience.
Ouais.
Et c'est après, au fur et à mesure des expériences, en fait, que tout s'est un peu relié, quoi. Je me suis dit, ah, ok, maintenant je suis prêt parce que j'ai fait une expérience. Un grand groupe assez politique où il faut négocier des budgets et faire travailler des personnes avec soi qui n'ont pas forcément envie de travailler avec toi, donc Carrefour en l'occurrence. Requête Internet, grosse injection de cash, hyper croissance.
Quand tu parles de grosses injections de cash, c'est quoi à peu près les montants moyens injectés pour les différents projets de requêtes
Ouais.
Internet ou les boîtes
Ben
qui se
là,
sont créées? Si tu peux
en.
me donner un ordre de
Ouais.
grandeur, je suis assez
Au
curieux, puisqu'on parle
Philippe.
souvent de levée de fonds, de
Ouais.
pré-seed, de seed,
Ouais.
d'amorçage, de série A, de série B, mais c'était quoi à peu près les montants? Parce que c'était en 2012,
Ouais.
donc ça remonte un peu,
Ouais,
il y a 10 ans.
c'était moi, j'étais pas familier avec ces trucs-là.
Ouais.
Seed, pré-seed, tous ces
Ouais.
trucs-là, je connaissais pas. Je savais juste qu'on dépensait par mois et on
D'accord.
dépensait 1 million par mois.
Ok. Ah ouais,
Mais
donc
sauf qu'on
c'était.
était, on était, il y avait les Philippines, Vietnam, Thaïlande, l'Indonésie, je sais pas, on était. Au minimum 6 en fait à lancer la même structure dans tous ces pays-là. Plus il y avait d'autres structures, il y avait des Zalando aussi.
D'accord.
Donc nous on était Lazada. Il y avait Zalora qui est un Zalando, donc plutôt un fringue. Et nous on était vraiment, on vendait des livres comme des bijoux, comme des télés, un truc comme ça quoi. Et il y avait d'autres projets aussi. Donc en fait les injections de cash chez Rocket elles étaient massives. Nous, à notre niveau, on n'avait pas une vision sur ça très claire. Mais c'était assez énorme.
Et cette expérience aux Philippines, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, du coup, personnellement? Parce qu'au-delà de ce projet avec Rocket Internet, j'imagine que le quotidien là-bas, ce que tu pouvais découvrir, vivre, ça devait être hyper enrichissant pour toi. Qu'est-ce que tu en retires?
Alors, j'en retire plus du travail
parce
que, en fait,
t'étais vraiment focus
le,
et à
parce
fond
que
dans le
le
boulot.
rythme était très, très fort. C'est-à-dire qu'on travaillait vraiment tous les jours. Samedi, ça m'arrivait très souvent d'aller au bureau, des journées complètes. Le dimanche, l'après-midi, ça m'arrivait très souvent.
D'accord.
Donc, ça laissait assez peu de place pour les loisirs quand même. Moi, ça m'a appris plusieurs choses. Déjà que j'étais capable de gérer des équipes, parce qu'on m'a un peu catapulté pour faire du recrutement et pour gérer des équipes hyper jeunes, quoi. Donc, j'ai fait plein d'erreurs, mais ça s'est quand même plutôt bien passé.
Je pense que c'est comme ça qu'on devient manager. On a beau faire une école de commerce, une école de management, il n'y a que le terrain qui permet de donner de l'expérience. Et puis c'est vrai que c'est en faisant toutes ces petites erreurs qu'on affine ses compétences de managériales.
Ouais, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un pour
chaperonner
tout ça,
ou
quoi.
Peut-être quelqu'un sur place.
Ça m'aurait évité de faire pas mal d'erreurs. Mais après. Oui, le management, et surtout ça m'a appris que j'étais capable de travailler assez dur sur des longues plages horaires, etc. Ce que j'avais déjà vu en classe préparatoire. Et le troisième point, ça m'a appris le moment où, à pouvoir dire stop.
Ça, c'est important de savoir s'arrêter. Moi, je l'ai vécu dans, tu vois, c'est ma deuxième boîte de Grimp et j'étais étudiant entrepreneur. Et je m'acharnais parce que c'est bien d'être tenace, mais être acharné, je pense que c'est une connerie, hein, c'est une bêtise. Et quand on est pris par la spirale, quand on a vraiment envie de lancer son projet, on s'acharne, quand on bosse pour. Et puis, c'est vrai de savoir s'arrêter, c'est important. Et je pense que l'entourage peut vachement aider. Moi, personnellement, je sais que c'est des amis qui m'ont dit, hey, Paul, fais une pause,
calme-toi,
passe sur autre chose, va choper une expérience professionnelle différente.
Ok.
Et je trouve que savoir dire stop, comme tu viens de le formuler, c'est hyper important. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on est jeune, quand on attaque le monde du travail, on a tendance à tout prendre, dire oui, c'est stimulant. Et peut-être qu'avec l'expérience, un peu de sagesse, on commence à savoir un peu plus dire non. Et la rareté fait parfois la valeur aussi. Donc quand on sait dire non, peut-être qu'on est plus efficient sur d'autres verticales.
Ouais, en plus là, moi, je devais continuer la même chose au Nigeria, monter la même chose qu'aux Philippines. À l'époque, j'avais dit non et on avait été plusieurs à dire non, donc on était quand même pas mal isolés par rapport à nos familles respectives et tout, mais on a été plusieurs à dire non parce que en fait on s'y retrouvait pas dans l'équilibre pro-perso, mais à un niveau je termine un peu tard, c'est difficile, c'est un niveau où c'est pas possible d'avoir une relation personnelle, il y a plein de choses qui sont pas possibles, quoi.
Ouais, quand on est dans le jus comme ça, en plus on perd un peu la tête, quoi.
Ouais,
on manque de clairvoyance,
ouais.
Et puis il y a un moment il vaut mieux éviter le burn-out parce que ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit, je pense.
Le turnover à l'époque chez Rocket, il était de 3 mois.
C'est un modèle,
ça veut tout dire.
C'est particulier. Ça existe toujours, Rocket Internet?
Ça existe toujours.
Peut-être que maintenant c'est un peu plus light sur.
Là, les ventures sont structurées.
D'accord.
Il y en a qui ont été vendus aussi. C'est plus du tout la foire comme c'était au début, notamment dans certains pays. Déjà, il y avait une grosse différence entre ce qui était fait en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, versus ce qui était fait en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, au début, c'était vraiment la foire. Et peu à peu, en fait, les ventures sont toutes structurées. Et là, je pense que les environnements de travail sont OK, quoi.
Mais c'est le cas de beaucoup de modèles au démarrage de fonctionner par le chaos, je trouve. Même au démarrage d'une boîte, au début, faut accepter un peu cette jungle, ce chaos. Alors, il ne faut pas trop en payer les pots cassés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vois passer régulièrement ou que moi je vis quand les 2-3 premières années de ton activité, faut accepter peut-être que ça soit difficile. Alors après, quand il y a de l'humain là-dedans, c'est vrai que c'est pas évident. Non, mais hyper, hyper intéressant, Pierre. Merci pour ce partage. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à créer Zest? C'est arrivé quelques années plus tard.
C'est arrivé. Donc je bossais pour Carrefour, je montais des projets e-commerce alimentaire.
Comment t'as trouvé l'expérience? Comment est-ce que tu as... C'est toi qui as candidaté chez Carrefour, ils sont venus te chercher comme requête internet. Comment ça s'est passé pour...
Alors, ça s'est toujours
le
fait
job,
un peu par... Par des copains, c'est-à-dire quelqu'un qui était rentré là-bas et qui me disait « viens, c'est sympa ». Donc Rocket Internet, c'était l'ami d'un ami qui était parti au Vietnam et qui m'avait dit, j'avais au téléphone, il m'avait dit « c'est génial en termes de responsabilité, c'est top ». Carrefour, ça a été un ami qui bossait depuis longtemps chez eux et qui m'a dit il y a beaucoup de choses à faire en e-commerce alimentaire. Viens, voilà, on cherche des gens et tout. Je peux faire passer ton CV, etc. Donc j'ai postulé. Et après, comme je sortais du wagon, c'était un peu étrange parce qu'en fait, je présentais un CV, mais aussi un espèce de mini-book des sites que j'avais fait. Et j'ai eu la chance chez Carrefour de tomber sur un responsable qui m'a laissé une grosse marge de manœuvre, c'est-à-dire une grosse autonomie.
C'est ça que tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure.
Ouais. Donc grosse autonomie, et donc ça, sinon je pense que j'aurais suffoqué un peu, et donc ça c'était top. Donc j'étais chez Carrefour, l'expérience Carrefour, c'est fini parce que j'avais monté un projet et il y avait eu un rachat d'une boîte qui faisait la même chose. En fait, c'est comme si on avait fait le POC pour Carrefour et Carrefour avait décidé de racheter la boîte.
Un pilote, un test, proof of concept.
Voilà, exactement. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, mais c'est le moment de partir. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et je me suis dit, je veux faire du digital, travailler sur des produits physiques. Et j'aimerais bien travailler sur quelque chose qui a un sens. Un produit, alors pas révolutionner le monde, mais un produit voilà, dont je sois fier, qui ait du sens, etc.
Un impact positif sur ce qui t'entoure, sur ce que tu crées, quoi. Sur la valeur que tu dégages.
Et donc, j'ai découvert tout le monde est passé un peu au zéro déchet ou fait des démarches dans ce sens-là. Et moi, j'ai découvert les gourdes et en fait, peu à peu, j'ai commencé à halluciner parce que j'ai vu qu'elles étaient toutes faites en Chine. Donc, je suis tombé sur une marque l'une après l'autre.
J'ai une gourde ici, je ne sais pas où elle est fabriquée.
Mais... Non, mais elle est seule là aujourd'hui. Donc, elle est...
Alors là, celle-là, j'en ai aucune
elle
idée.
Si c'est pas...
C'est écrit en anglais dessus. Oui.
Mais ouais, sur l'inox, en tout cas, sur les gourdes en inox, on est tout seul. Que ce soit des marques européennes ou américaines, tout le monde produit en Chine. Ouais. Et donc, j'ai mis du temps avant de découvrir ça. Et je me suis dit, mais ce produit, il me plaît énormément parce qu'il y a un impact au niveau zéro déchet, parce qu'il y a la possibilité de faire du design industriel, il y a la possibilité de discuter avec des industriels et d'apprendre, en fait, de faire du terrain aussi. Et il est commercialisable en digital. Ouais. Donc, en fait, ça coche un peu toutes les cases. Et avant de lancer le projet, j'ai fait un petit sondage. Voilà,
ce qui était de marché rapide. Ouais.
Un sondage. Et
comment
là,
tu l'as envoyé, ce sondage
Facebook, sur mon profil Facebook. Et en fait, il a tourné. Et en 4 jours, il y avait 500 personnes sur le truc. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc. Parce que déjà, le niveau des répondants, alors c'est pas monstrueux, mais le niveau des répondants était fort en
très peu
de
temps. Non, mais ça donne un aperçu d'une petite appétence, de quelque chose. Tu sais, moi, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai fait une vidéo. Alors nous, c'est du logiciel, ça n'a rien à voir. J'avais fait une vidéo d'un prototype que j'ai balancé comme ça sur LinkedIn. Et ne serait-ce que d'avoir 150 personnes qui likent, une cinquantaine de commentaires, ça m'a poussé à l'action, tu vois. Je me suis dit, ah tiens, il y a un truc à faire. Et je pense que tu as peut-être vécu la même
c'était
sensation.
Ça. Hein. C'était ça, en fait. Et ils nous ont décrit, les répondants nous ont décrit concrètement ce qu'ils voulaient. Donc, Made in France, un truc de 50 centilitres, de l'inox. C'était assez précis. Le truc était assez long en plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé des designers industriels avec qui on travaille toujours. Un couple de designers, j'ai pris mon bâton de pèlerin et on a commencé à dessiner, eux ont commencé à dessiner des formes et moi j'ai commencé à aller voir des industriels partout.
Et à ce moment-là, t'étais encore en poste ou t'étais en rupture conventionnelle ou chômage
J'étais en rupture, en fait j'avais négocié avec Carrefour un départ, donc j'étais plus en poste.
Donc tu t'es mis à 100% focus sur
le
projet.
Ouais, j'ai fait que ça.
Et c'était quoi le déclencheur pour te dire, tiens, j'y vais à fond? Parce que quand tu as lancé l'étude de marché, le petit sondage, tu étais en poste ou c'était vraiment, tu avais décidé d'arrêter?
Non, j'avais arrêté en juin 2018 et le sondage, ça m'a pris du temps, le sondage, je l'ai lancé en début décembre 2018.
Ok, donc de juin à décembre, tu étais sur une période comme ça de réflexion.
J'explorais, je postulais à des trucs, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, etc. J'ai fait une phase de coaching aussi, pour un peu me recentrer sur vraiment ce que je voulais faire, qui m'a beaucoup aidé. À partir de décembre 2018, là, je savais que j'étais prêt à consacrer des journées entières.
Quand tu parles de coaching, c'est toi qui transmettais des compétences ou
Non, je suis allé voir un coach.
Tu es allé voir un coach, super.
Ouais. Parce que il y a des moments où je trouve qu'on ne trouve pas trop les réponses soi-même, on a besoin d'un...
Un mentor,
d'un miroir un peu extérieur et indépendant, hors du cercle familial et amical. Et du coup, c'était très bien parce que moi, le coach que j'avais vu, on avait normé un peu les choses. C'est-à-dire, j'avais dit, moi, je ne veux pas passer ma vie en coaching, quoi. Je veux faire 4-5 séances et après, on se quitte. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je n'avais pas les réponses après la fin du coaching, mais le cheminement était en cours, quoi. J'avais identifié des pans, donc ce que je te disais, digital, des produits, ouais. Un impact.
Voilà. Ça me fait penser, tu vois, moi, quand je cherchais ma formation, mon école, je crois que j'avais abandonné un IUT et j'étais complètement déboussolé. Je suis allé voir un cabinet de placement ou un cabinet de coaching, d'accompagnement comme ça, avec des tests un peu de connaissance de soi pour essayer de trouver son orientation. Et je sais que c'est mes parents qui m'avaient orienté là-dedans parce que je voulais faire moniteur de ski, tu vois. Rien à voir avec ce que je fais maintenant, parce qu'il y a deux choses que je fais bien dans la vie, c'est du ski et peut-être lancer des projets, tu vois, alors que je suis breton et que c'est assez loin, mais bon, j'adore ça. Et c'est vrai que de savoir se faire aider, je pense que c'est fondamental et il n'y a aucune honte à le faire. S'il y a des métiers pour ça, finalement. Et c'est vrai que quand tu vas un peu aux US ou tu discutes avec des Américains, ils ont tous souvent un coach. Et nous, en France, on n'a peut-être pas suffisamment ce réflexe, même si je trouve que c'est un peu plus dans les mœurs aujourd'hui.
Ouais. On en parle un peu moins ouvertement qu'eux, mais le nombre de personnes, que ce soit entrepreneurs, pas entrepreneurs, qui sont coachés sur leur carrière, sur tout, quoi. Moi, je trouve que, étant ado, je trouvais que c'était je comprenais pas en fait le coaching et en devenant adulte j'ai très vite compris que c'était quand même essentiel, quoi. Et là en tout cas ça m'a donné une petite impulsion.
Et avant de plonger dans l'aventure Zest, est-ce que toi aujourd'hui ça t'arrive de temps en temps de donner un peu de ton temps à des jeunes qui se lancent, de partager des conseils, j'imagine peut-être aller sur des événements ou tu vois, parce que je pense que quand tu te fais accompagner derrière aussi t'as ça en toi, tu le transmets assez facilement, tu vois, c'est peut-être un
d'esprit, bien sûr. Moi je trouve que ce qui est hyper sympa et hyper beau dans l'entrepreneuriat, c'est justement les moments dédiés à d'autres personnes sans rien attendre.
Tu sèmes, c'est le karma peut-être.
Oui, peut-être qu'il y aura quelque chose plus tard. Enfin, et on s'en fiche.
Ouais. Pas de contrepartie.
Non, j'avais découvert ça au moment où je lançais, un peu avant de lancer la campagne Ulule, parce qu'on avait fait une campagne.
Ulule, c'est une campagne de financement. Ouais. J'essaie d'être un peu pédagogue, tu vois, parce que. En plus, on fait attention aux anglicismes et tout, sinon on peut facilement tomber dans le piège des start-upers, comme on dit.
Ouais. La plateforme de précommande, du coup.
Après, bon, c'est quand même assez connu.
Et donc, j'étais allé solliciter les entrepreneurs et tous, en fait, j'avais pas eu de personne qui m'avait dit non, j'ai pas le temps.
Ouais.
Alors que c'est des gens hyper bookés.
Carrément.
Et donc, ils avaient tous pris une heure autour d'un café ou un call ou un machin et avec des super conseils. Et après la campagne, moi, je l'ai fait pour d'autres personnes. J'ai régulièrement des calls. Je pense que c'est minimum toutes les deux semaines de personnes qui sont à des stades un peu moins avancés, même si on n'est pas ultra avancé, mais un peu moins avancé que nous, etc. Ouais. Et je trouve que c'est important. Ouais.
Je pense que c'est un point commun qu'on a en tant que porteur de projet, entrepreneur, jeune dirigeant d'entreprise. C'est vrai que tu vois, là ce matin, je te crois, je te dis tiens, il me faut un invité, ça s'est annulé à la dernière minute, tu donnes de ton temps et c'est formidable. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui nous rassemble, si on peut parler de communauté, encore plus dans un accélérateur de start-up, un incubateur, une structure comme ça. Donc non, c'est top. Et je pense que quand on est jeune, quand on est à l'école, d'aller chercher un mentor, de faire preuve un peu de culot, d'audace, demander conseil, aller se renseigner sur des métiers inspirants, faut vraiment pas hésiter. Et on le voit, je trouve, de plus en plus sur LinkedIn, il y a quand même une certaine bienveillance, même si LinkedIn, il y a des avantages, il y a des choses qui sont un petit peu des fois à revoir, je trouve, ça se facebookise un peu trop. Mais aujourd'hui, sur LinkedIn, avec un peu d'audace, un petit message spontané, on peut facilement arriver à créer des belles histoires et interagir avec des gens qui paraissent parfois peut-être inaccessibles.
Ouais.
Donc, c'est hyper intéressant ça. Et c'est vrai que j'encourage ceux qui écouteront ce podcast à ne pas hésiter à demander conseil, demander de l'aide.
C'est un mindset, comme on dit en anglais. C'était mon père qui m'avait conseillé de... Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque. Vous, c'est les débuts de LinkedIn. Lui, il n'utilisait pas LinkedIn. Il disait, il faut envoyer des lettres tout en haut.
Des lettres
manuscrites, ouais. Pour envoyer des lettres aux dirigeants des boîtes, aux ouais. machins, pour prendre du temps, prendre un café ou n'importe quoi. Ouais. Ou... De toute façon, il n'y a rien à perdre. Donc,
ouais, faire du réseau, c'est hyper important. Ouais. T'as gardé contact avec tes copains de l'école en tant qu'alumni de l'SCP?
Oui. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est... que ce soit classe préparatoire ou école de commerce, c'est des liens qui sont très forts. Donc, j'ai gardé contact.
Ah, c'est top. Bon, alors, du coup, Zest.
Alors, Zest, c'est hyper simple.
C'est quoi, Zest?
Zest, on fait des produits. Alors, on aime dire qu'on notre mission, c'est valoriser les savoir-faire locaux en proposant des produits responsables, durables et indispensables.
Okay.
Donc ça, derrière ça, ça veut dire... quand on se penche sur un produit grande conso, on fait bien sûr des tests en amont pour qu'on soit sûr que le produit soit utilisé, pour ne pas faire un gadget. Sur la chaîne de production, on fait en sorte de mettre en valeur tous ceux avec qui on travaille, du designer jusqu'aux industriels, d'avoir une traçabilité aussi totale sur les matières premières qu'on utilise et de faire au mieux. À mon sens, il n'y a aucune boîte qui est parfaite. En revanche, il faut apporter énormément de transparence aux clients, ce qui se fait beaucoup notamment dans le textile. Le textile, on voit, il y a un vrai mouvement en fait de fond sur la transparence du fil jusqu'au produit fini. Et chez Zest, on aime bien en fait cette optique là et donc on a commencé par les gourdes en inox.
Parce que ta vision à moyen long terme, c'est pas uniquement faire des gourdes en inox, c'est peut-être avoir toute une gamme de produits, si je comprends bien.
Ouais, c'est avoir une gamme de produits mais liés un peu toujours dans le même univers, liés à la mobilité, liés à la mobilité plutôt douce, donc urbaine, etc. Donc là, par exemple, on a sorti des couverts nomades, extra plats qui s'empilent, des choses comme ça, des petites choses un peu malines et essayer de proposer quelque chose de différent à chaque fois. Et les gourdes, de toute façon, c'était tellement gros, en fait, le switch entre du 100% made in China et du 100% made in France, que ça nous a pris quand même, moi, ça m'a pris 2 ans pour trouver des partenaires industriels qui puissent
m'accompagner. Et tout faire en France.
Et tout est fait en France, ouais. Les matières premières,
c'est incroyable.
Merci.
Je trouve ça incroyable. Et tes clients, du coup, c'est des clients pour l'instant plutôt en France ?
Ouais, on est vraiment en France. Donc, on fait de l'e-commerce. On a des super beaux partenaires distributeurs. Donc, on a fait quelques incursions aux Galeries Lafayette ou à la Grande Épicerie de Paris.
D'accord.
Mais nos partenaires distributeurs qui marchent le mieux, c'est plutôt des indépendants. Situé dans pas mal de villes, donc on en a quand même pas mal à Paris parce qu'on était à Paris avant, mais voilà, ça grossit tranquillement. Et après, on fait aussi de l'entreprise, c'est-à-dire du cadeau d'affaires.
Ouais.
Donc on équipe, comme tout le monde passe, les gobelets jetables en entreprise, c'est fini. Tout le monde passe à la fontaine à eau et du coup, on accompagne des entreprises toute taille sur équiper en interne les salariés. Avec la volonté d'avoir des cadeaux, mais un peu mieux faits. C'est-à-dire plus le goodies que les USB, mais quelque chose qui a vraiment du sens pour les salariés.
Avec un impact positif du coup, sur la planète.
Ouais, ouais. Voilà.
Okay. Et du coup, les gourdes, vous n'avez pas encore de boutique physique aujourd'hui ?
Non,
tout passe sur un site e-commerce, j'imagine, un Shopify ou quelque chose.
Oui, c'est ça. Ah, c'est un Shopify qu'on a un peu... twisté et après sur les distributeurs on fait quelques salons. On avait fait 2 fois Maison Objet, qui est un salon qui est assez connu, qui est à Villepinte, on sort aussi du salon du Made in France qui avait lieu la semaine dernière.
Génial, je te vois avec ton café, c'était pas une petite gorgée.
merci.
C'est à la cool le podcast, super. Et du coup, aujourd'hui, si tu peux nous partager quelques chiffres, t'en es où de cette aventure que tu as lancée ça fait combien de temps, tu me disais?
Donc, les statuts, c'était 2018, première commercialisation en 2019. Ouais. Donc, c'était un produit qui n'était pas 100% français.
Ouais.
Le premier produit, le produit 100%, donc on a arrêté depuis.
Ouais.
Le produit 100% français, on l'a sorti en 2020 et il était en stock vraiment, 2020 en précommande, et il était en stock en flux tendu, quoi, en 2021.
D'accord.
Donc le chiffre d'affaires en fait a commencé vraiment en 2019 et après l'accélération a commencé en 2020.
Et t'es capable de me dire combien de gourdes tu as distribué?
Ouais, alors l'année dernière on était aux alentours de 20 000.
Okay.
Ah, là énorme. Cette année on va être aux alentours de entre 60 et 80 000 Donc voilà. Et après, au-delà des gourdes,
c'est
moi,
une
ce qui
belle croissance,
qui ouais, c'est sympa, on est hyper content.
Permettre de financer d'autres produits, du coup, j'imagine.
Ouais, et qui ouais. me permet aussi de recruter. Donc ouais. c'est mon point le plus important aujourd'hui, c'est que on est passé d'un projet où j'étais avec des personnes qui étaient de qualité, mais qui étaient en stage et en ouais. alternance, à des personnes qui sont en CDI.
Parce
et
que ça, toi, t'es solo fierté. Fondateur, solo
oui.
founder.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Et ça a été dur au début ou question un petit peu cliché, mais comment tu l'as vécu? Parce que tu t'es pas associé, t'as lancé ouais. ça tout seul, t'avais eu un coach avant, tu disais, mais comment ouais. tu t'entourais, comment, parce que c'est pas évident, t'as pas lancé ça de ouais. ton appart tout seul, j'imagine, t'avais peut-être dans des coworking,
d'un café,
comment tu t'es entouré, parce que c'est hyper ouais, important, ouais. j'imagine.
De toute façon, autour de la boîte, ont toujours gravité des personnes qui m'ont accompagné la boîte, qui ouais. ont donné des conseils, donc des amis entrepreneurs et aussi les personnes qui ont répondu au sondage.
D'accord.
Donc moi, mes parties un peu de comme on dit, de ping-pong sur des idées.
Ça a été avec tes clients, avec partenaires, clients, ouais. tes sponsors, ambassadeurs.
Ouais,
ouais, tu t'es ça. Toujours connecté à tes utilisateurs, tes clients, du coup,
ouais.
Ouais, les personnes, les parties prenantes du projet. Quoi.
Ouais,
même si t'étais solo fondeur, comme on dit. Mm. Ouais,
okay. Parce que sinon, déjà, je trouve ça trop triste.
Ouais, c'est vrai, c'est pas évident.
Et moi, je voulais que ce soit une aventure collective. Donc,
ouais.
donc après, j'avais fait des tests au début d'associations qui n'ont pas forcément fonctionné mm-hmm. Pour des raisons de fit. Voilà.
Ouais.
Et après, au bout d'un moment, le projet était trop avancé.
Ouais.
Donc, c'était très difficile. Plus il avançait, en ouais. fait, plus c'était difficile.
À moins que ce soit quelqu'un peut-être avec un super senior qui a le bras long, une expérience de fou, mmh. pourquoi pas. Quoi.
Mais même
pas,
à ce moment-là.
Tu penses là ou non?
Non, pas du tout.
Lancé là.
Plus jamais.
Là, ok, plus jamais.
Depuis un an, j'ai. Alors, je dis pas plus jamais, mais j'y pense mmh. plus depuis un an.
Ok.
J'y pense plus depuis un an. Mais oui, du coup, non, j'ai pas trouvé ça particulièrement difficile.
Ok, super. Ouais. Bah, c'est vrai que si t'étais peut-être sorti d'études et que t'avais lancé ça directement, sans avoir peut-être le réseau que tu avais au démarrage, sans avoir les expériences professionnelles que t'as pu vivre. Ça aurait été peut-être un peu plus, mmh. plus compliqué. Mmh. Et là, du coup, vous êtes combien dans l'équipe?
Donc là, on est 5. Donc il y a Corentin qui est en Account Management Sales, qui okay. est en CDI. Sarah qui est en marketing.
Mmh.
Juliette qui est en marketing aussi. Et il y a Clara qui est sur la partie logistique, prod, achat.
Okay.
Donc c'est une petite équipe, mais moi, ma grosse fierté, c'est que. On est sur des postes pour tout le monde. Alors Juliette, elle est apprentie, mais tout le monde est fixe.
Okay.
Donc ça, c'était hyper important pour moi. Le premier recrutement de CDI, c'était aussi un marqueur
ouais.
et qui est plus fort pour moi que par exemple le nombre de gourdes ou vendues. Enfin, c'est un indicateur
okay,
qui est vraiment
en
fort.
En termes d'indicateurs, ouais. ouais. okay. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire 5-6 personnes. Peut-être 60 000 gourdes. Tu vois, le ratio il est énorme.
Ça veut dire qu'on travaille bien.
Ouais, ça veut dire que tu travailles bien. Et tes fournisseurs, du coup,
ouais.
c'est peut-être la recette magique, la recette secrète. En France, ils sont un peu éparpillés, ils sont dans le Grand Ouest.
Alors, on cache les fournisseurs, on donne tout le temps les noms.
Ah ouais,
ouais okay. On donne tout le temps les noms. J'avais eu des doutes au tout début, mais en fait, je me suis dit, mais moi, perso, j'ai envie de savoir en fait, où les produits que j'achète sont faits. Donc,
ouais.
on donne tout le temps les noms. Donc, le corps de la bouteille, il est fait à Vire, en Normandie, chez un de nos partenaires qui s'appelle De Graines, qui est la branche industrielle de Graines, la marque des arts de la table.
Mm-hmm.
Le bouchon, il est fait à 1 heure de Rennes. Pour tout ce qui est personnalisation, on fait ça en Haute-Marne, dans une entreprise familiale. Donc, nous, notre but, c'est de renseigner un peu sur toutes les étapes. Et après, bien sûr, avec nos partenaires, on a une grosse confiance parce que on est très liés. C'est-à-dire que nous, on a investi des sommes assez considérables pour contribuer à monter des chaînes de prod, donc des outils industriels notamment et des machines aussi. Et donc, on c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Quoi.
Et pour amorcer l'activité, du coup, tu as commencé tout de suite par vendre des gourdes ou tu as été chercher des financements, de la dette, des subventions, tu as ouvert ton capital. Comment ça s'est passé au démarrage?
Ouais, alors ça, c'est le principal financement, ça a été une campagne de crowdfunding.
Oui, comme tu disais tout à l'heure.
Un Ulule, ouais. Où on a vendu un peu plus de 1600 en un mois. Donc
ouais.
là, signal hyper fort. Et donc ça a permis de financer les premiers outils industriels.
Ouais.
Après, il y a d'autres histoires, il y a le Covid qui est arrivé, les usines ont fermé, etc.
Ça doit être complexe. Hein.
Mais en tout cas, ça a permis de financer les premiers outils. Et après, on a fait une autre phase de précommande pour le produit qui est sorti après. Donc qui est le produit que tout le monde peut retrouver sur notre site aujourd'hui. Mmh. Et donc c'est ces éléments-là qui ont principalement financé. Mmh. Et après, à partir du moment où on a commencé à avoir de l'attraction, il y a des banques qui sont venues.
D'accord.
Notamment le Crédit Coopératif, qui est la première banque à nous avoir fait confiance. Mais qui sont venus en lien avec, par exemple, on a été lauréat Réseau Entreprendre Paris.
Ouais, j'avais vu ça.
Crédit Coopératif.
Réseau Entreprendre, c'est un réseau qui accompagne les porteurs de projets avec... Ouais. Avec du mentoring, avec l'accès du coup à un réseau, des dirigeants d'entreprise qui sont parfois plus avancés que nous, et un prêt d'honneur aussi. Je ne sais pas si tu as débloqué le prêt d'honneur.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc j'ai débloqué le prêt d'honneur et après il y a eu un petit effet levier avec la banque.
Ouais.
Et Réseau Entreprendre au-delà de... Donc ça, c'est vraiment sur la partie financement. Et Réseau Entreprendre au-delà de la partie... financière, je pense que c'est un des meilleurs clubs d'entrepreneuriat dans lequel je suis allé.
Super, parce que nous, on l'a rejoint, il y a quelques semaines. On a été lauréat de Réseau Entreprendre Morbihan.
Trop bien.
On n'a pas encore communiqué autour de ça, parce qu'on a un petit peu d'administratif et de paperasse à gérer avant de pouvoir avancer là-dessus. Hop là, je vais couper mon téléphone. On fera une petite blague à l'enregistrement.
Donc, félicitations.
J'ai une sonnerie assez drôle. Mais ouais, du coup, on est lauréat Réseau Entreprendre. Et c'est vrai que du coup, je suis assez emballé par ce qui nous attend. Ne serait-ce que d'avoir accès à un groupe WhatsApp en local, de dirigeants. Enfin, je pense que ça peut être assez structurant pour nous. Et puis, ça fait du bien aussi de pouvoir avoir un peu de reconnaissance après tous ces efforts.
Ouais, ouais.
Tu vis de zeste, là tu te sors un salaire, tu te rémunères.
Oui, oui. Ouais, comme tous ceux qui sont en fixe, voilà, on a tous des salaires. Moi, je vis de zeste. On n'est pas du tout au salaire que je pouvais avoir quand j'étais en distribution. Voilà. C'est pas ça le but. Voilà, ça fait partie aussi des fiertés. C'est-à-dire que ce qui est magnifique aussi, je trouve, en France, c'est qu'il y a un support de l'État français pendant quasiment 2 ans. Moi j'estime qu'on va arriver à un niveau où j'ai l'impression d'avoir repayé un peu ce qu'on m'a donné, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire en termes de cotisation, mais aussi de création d'emplois.
Ouais.
Donc bien sûr on veut croître, etc., et je veux continuer à recruter, mais déjà réussir à repayer un peu ce que l'État
m'a donné avec le chômage.
Ouais,
c'est vrai qu'on le met peut-être pas assez en avant. Moi aussi j'ai bénéficié du chômage encore jusqu'au mois de février là.
Okay.
Donc j'en profite, et c'est vrai qu'on cotise pour, mais c'est quand même bien rassurant de pouvoir monter des projets, créer de l'emploi, avoir un impact, tout ça financé par Pôle emploi,
faut
le dire. Et c'est cool d'avoir ce sentiment de gratitude, si je peux l'appeler de cette manière.
Ouais, bah c'est un... Voilà, je trouve que c'est un super truc, et moi je suis plutôt reconnaissant, quoi, parce que sinon je sais pas en fait exactement comment j'aurais pu faire, parce que peut-être une levée de fonds ou un financement, je sais pas.
Non, c'est clair, c'est pas la fiscalité est complexe en France, mais il y a quand même pas mal d'avantages quand on porte des projets, et je trouve ce qui permet d'accélérer assez bien, c'est déjà de justifier d'un petit peu de chiffre d'affaires, au-delà de toutes ces levées de fonds, ces financements. Quand on fait un peu de chiffre d'affaires, c'est qu'on a déjà une preuve de concept, quoi. La clé, c'est d'avoir des clients, évidemment. Donc du coup c'est rassurant, que ça soit pour les banques, pour Réseau Entreprendre, la BPI, pour des potentiels investisseurs. C'est quoi les perspectives là, du coup, pour les prochains mois? Tu travailles sur une levée de fonds? Pas vraiment, t'es plutôt en croissance?
Pour l'instant on travaille pas sur une levée de fonds. En fait, on a atteint la rentabilité assez vite. On est sur notre 4e exercice, donc dès le 2e, en fait, on était rentable.
Génial.
Le but, c'est de continuer à croître, voilà, en sollicitant des partenaires bancaires. On verra, la levée de fonds, on verra si elle est justifiée par un projet gros, type, je dis n'importe quoi. C'est pas des projets dont j'ai parlé aujourd'hui. Internationalisation, mais je suis pas sûr.
Logistique pour gérer tout.
Je sais pas du tout.
Ouais, okay.
Mais pour l'instant, c'est pas du tout.
C'est pas l'actualité.
À l'ordre du jour.
Et ton recrutement, là, on s'est croisé ce matin. Tu me disais que tu cherchais à agrandir ton équipe avec peut-être des stagiaires, des alternants. Tu cherches quoi comme profil là?
On cherche
30 secondes promo là.
Ouais, ça marche. Alors on cherche deux profils. un ou une assistante chef de projet, chef de produit, pardon. Donc plutôt sur la partie conception produit, prod, achat, voilà, pour travailler avec Clara qui s'occupe de toute cette partie-là. Et une personne en communication, donc pour travailler sur du contenu, sur des réseaux sociaux, sur pas mal de choses différentes, et qui travaillera avec Sarah.
D'accord.
Voilà, on cherche deux personnes plutôt en stage. On n'est pas fermé à l'alternance, mais là pour le coup on cherche à partir de janvier 2023, donc c'est assez court, hein, et pour une durée de 6 mois.
Comment on envoie une candidature spontanée sur le
partout,
site internet
sur partout Instagram non, on a une page où on a les offres. On n'a pas de truc de job board, voilà, partenaire avec des vidéos, des trucs comme ça, etc. Mais
sinon, on peut t'envoyer un email peut-être,
ouais,
non?
Un email.
C'est quoi ton email du coup?
pierreadzeste.fr.
Ok.
Zeste.fr.
Ok, voilà, super. Et sur LinkedIn, tu réponds à tes messages,
ouais. Et sur LinkedIn, je réponds à tous les messages. Sauf de t'entendre les messages trop commerciaux.
Ouais, c'est vrai qu'on est de plus en plus bombardé de messages commerciaux. Ouais.
Donc, voilà.
Plus c'est court, plus c'est efficace.
Mais sinon, je réponds à tous les messages.
Ouais. Ok, super. Bah, écoute, on vient de passer déjà 40 minutes ensemble. C'était hyper enrichissant. Ça me permet aussi de mieux te connaître parce que je te croise de temps en temps et puis bah, c'était l'occasion. Merci à toi. J'ai une dernière question du coup pour toi en lien avec le nom du podcast. Le futur, c'est maintenant. Et ça t'inspire quoi cette phrase?
Ça m'inspire pas mal de choses sur le sens, c'est-à-dire sur là comme on a vécu et on continue à vivre des périodes un peu agitées, on voit que tout le monde est en quête de sens dans les entreprises qu'on rejoint ou alors les projets qu'on crée, etc. Et j'invite tout le monde à explorer voilà. Cette quête de sens et de trouver un peu la boîte qui leur plaît ou alors le projet qui leur plaît. Et c'est maintenant qu'il faut y aller, que l'on soit étudiant ou alors salarié depuis de nombreuses années, quoi. Après bien sûr il y a des contraintes personnelles, etc., mais je trouve que les quêtes un peu erratiques elles sont assez sympas, tout s'aligne après, quoi. On n'est pas forcément conscient au début, mais après tout s'aligne.
Génial. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Pierre?
Non, juste un grand merci.
Écoute, merci à toi.
Et merci à tous de m'avoir écouté.
Salut Pierre, à bientôt.
Salut.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu. Alors, merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.